Impatient de connaître la suite du conte de Monsieur le Vent et de Madame la Pluie? Alors je vous invite à vous installer bien confortablement et de vous laisser porter. Chapitre 13. Dans ce temps-là, Guillaume, duc de Normandie, entreprit la conquête de l'Angleterre. Il rassembla tous ses soldats et appela tous ses étendards, les seigneurs de tout pays qui voulurent prendre part à la guerre. Monsieur le baron, qui s'ennuyait dans son château, se résolut à partir. Il se rendit à Caen auprès du duc Guillaume. L'armée s'embarqua dans une quantité de petits vaisseaux et alla aborder en Angleterre. Le prince Harold, chef des Anglais, amassa des troupes à Londres et marcha au-devant de Guillaume pour défendre son royaume. Les deux armées se rencontrèrent dans la plaine d'Hastings et l'on s'attendit à une bataille effroyable.
Madame la baronne était fort inquiète de son mari, dont elle ne recevait pas de nouvelles. Les enfants n'osaient plus jouer entre eux, voyant le chagrin de leur mère, et Mademoiselle Marguerite pleurait en songeant au danger que courait son papa. Un jour, Pierrot vint au château et il trouva tout le monde dans la consternation.
« Ne vous affligez pas, madame la baronne, dit-il. Et vous, ma chère Marguerite, essuyez vos larmes. Dans une heure, vous aurez des nouvelles de monsieur le baron. »
Pierrot courut à la ferme et il entra dans la prison de monsieur Levent. Il le trouva étendu sur un canapé, tout engourdi, et si racorni qu'on distinguait à peine son corps parmi les plis de ses vêtements.
« Levez-vous, monsieur Levent, dit Pierrot. J'ai une commission importante à vous donner. Ne seriez-vous pas bien aise de prendre un peu d'air et de courir en liberté par-dessus la mer ?»«
Oui, sans doute, répondit Levent. J'en serais bien aise, car je me consume dans cet affreux cachot. »«
Eh bien, je vous donnerai la clé des champs pour une heure. » « Mais il faut me promettre de revenir et de faire une commission importante. »«
Quelle commission ? Parle vite et ouvre les portes. Dépêchons-nous, je suis prêt à partir. »«
Un moment, reprit Pierrot. On ne part pas ainsi. Étendez d'abord votre main sur ce crucifix et jurez de revenir dans une heure. Par le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, par la Sainte Vierge, sa mère, et par le Tout-Puissant, votre Créateur et le mien. »
« Et quel besoin y a-t-il de jurer par toutes ces choses sacrées ?»«
Si vous ne jurez pas, je ne vous ouvrirai point les portes. »
Monsieur Levent étendit sa main sur le crucifix et prononça le serment.
« À présent, dit Pierrot, allez en Angleterre. Volez d'un trait jusqu'au camp du duc Guillaume. Regardez ce qui s'y passe, apportez-moi des nouvelles de monsieur le baron. Il ne vous faut pas plus d'une heure pour tout cela. » Mais je vous donne le quart d'heure de grâce pour faire un peu l'école buissonnière. Pierrot ouvrit les portes. Monsieur Levent aspira une bouffée d'air. Sa poitrine s'enfla aussitôt comme un ballon. Il déploya ses grandes ailes et s'élança par-dessus les arbres et les clochers avec un sifflement terrible. Il était parti depuis 1 heure et quart lorsque Pierrot le vit revenir.
« Oh !» dit Monsieur Levent, « quelle belle promenade je viens de faire là. Je me suis bien diverti. Les deux armées se sont battues dans la plaine d'Hastings. Le duc Guillaume a été vainqueur. Harold est tué. Les Normands marchent sur Londres. Monsieur le baron se porte bien. Il s'est conduit vaillamment et le duc lui a promis des biens et des honneurs en récompense de son courage. »
« Fort bien, dit Pierrot en fermant les portes. Je vous remercie de votre promptitude. Dormez maintenant jusqu'à demain. »
Pierrot courut au château et donna ses heureuses nouvelles à la baronne et aux enfants. Quoiqu'il ne voulût pas dire comment il s'était pris pour savoir cela, on le crut volontiers parce que les nouvelles étaient bonnes. Au bout de 15 jours, la baronne fut bien étonnée en recevant une lettre de son mari dans laquelle se trouvait mot pour mot tout ce qu'avait prononcé Pierrot. Pour le remercier, elle le combla de cadeaux et de friandises et lui donna la permission de venir tous les jours au château pour voir son amie Marguerite.
Chapitre 14.
Les mois et les années s'écoulaient. Pierrot atteignit un beau jour ses 14 ans. Comme il était grand et robuste, il voulut aller chercher fortune en Angleterre. Il fit ses adieux à Madame la Baronne et il embrassa les enfants. On lui donna un bagage complet, de l'argent et des provisions. Marguerite lui broda un beau mouchoir comme gage de son amitié. Jean-Pierre lui souhaita bonne chance et Claudine le pressa dans ses bras en pleurant.
« Ne pleurez point, dit Pierrot. Je reviendrai peut-être bientôt riche et grand seigneur. Ne laissez point échapper Monsieur le Vent ni Madame la Pluie. Envoyez-les en Angleterre tous les matins. Ils vous rapporteront de mes nouvelles et je les emploierai utilement au service du duc Guillaume. N'oubliez pas surtout de leur faire prononcer le serment sacré avant de leur permettre de sortir. » Claudine promit de suivre exactement les instructions de son fils. Pierrot monta sur son cheval et partit en pressant sur son cœur le mouchoir brodé par Marguerite. Il traversa une partie de la Bretagne et arriva au bout de 3 jours à Caen. Des Normands qui passaient en Angleterre le prirent dans leur vaisseau. Monsieur Levent, que Claudine laissa sortir fort à propos, souffla dans les voiles. Pierrot entra le 15e jour à Londres, où le duc Guillaume demeurait. Il se logea dans une petite auberge, en attendant l'occasion de se présenter à la cour. Un matin, qu'il prenait l'air à sa fenêtre, Pierrot vit courir à lui Monsieur Levent qui lui dit
« Je suis à tes ordres, Pierrot. Ta mère m'envoie savoir comment tu te portes et si tu as besoin de mes services. »
« Dites à ma mère que je l'aime et que je porte bien. Je n'ai rien à vous commander pour aujourd'hui. » Mais ne manquez pas de revenir demain. Madame la Pluie, qui ne voyageait pas si vite, n'arriva que l'après-midi à Londres.
« As-tu des ordres à me donner ? » dit-elle.
« Point d'ordre pour aujourd'hui, » répondit Pierrot. « Mais ne manquez pas de revenir demain. » Chapitre 15.
Le duc Guillaume adorait sa femme, la princesse Mathilde, qu'il avait laissée à Caen. Toutes les semaines, il lui envoyait un exprès. Mais comme 8 jours s'étaient écoulés avant le retour du courrier, il n'avait jamais de nouvelles fraîches. Pierrot alla trouver ce grand prince et se jetant à ses pieds.
« Monseigneur, lui dit-il, j'ai à mes ordres un courrier bien plus habile que les vôtres. Si vous voulez vous servir de moi, je vous ferai savoir jour par jour ce qui se passe à Caen dans votre palais. » Le prince voulut bien essayer les services de Pierrot. Dès le lendemain, Monsieur Levent accourut à la même heure que la veille. Pierrot l'expédia aussitôt à Caen, et au bout d'un moment, il sut tout ce qu'avait fait la duchesse dans la matinée. Il en porta le détail au duc Guillaume, qui fut bien étonné lorsque les lettres et les courriers vinrent confirmer, plus tard, ce qu'avait dit Pierrot. Le prince voulut attacher à sa personne un messager si habile et si prompt. Il lui donna un logement dans son château et se servit de lui tous les jours, sans se douter des moyens que Pierrot employait. Les autres seigneurs eurent aussi recours à lui pour savoir ce que faisait leur femme. Quelques-uns en apprirent plus long qu'ils n'auraient souhaité et, comme ils n'étaient pas d'aussi bon mari que le duc Guillaume, ils renoncèrent bientôt à ces messages rapides pour revenir à la poste ordinaire. Cependant, Pierrot fit fortune à ce métier-là. Il amassa 100 000 écus qu'il envoya à ses parents en les priant d'acheter le premier château qui serait à vendre dans son pays, et il écrivit une lettre bien tendre à Marguerite, où il lui disait qu'il n'avait plus qu'un pas à faire pour devenir chevalier, comme Jasmin.
Le duc Guillaume fut enfin couronné roi d'Angleterre et il s'apprêtait à jouir paisiblement de ses conquêtes lorsqu'on apprit que les Danois et les Saxons envoyaient contre lui une flotte considérable. On fit aussitôt de grands préparatifs de défense et on assembla les troupes pour s'opposer à la descente des ennemis en Angleterre. Pierrot alla trouver le roi.
« Sire, lui dit-il, ne dépensez pas votre argent et ne fatiguez pas vos soldats inutilement. Je vous délivrerai des Saxons et des Danois avant que leur flotte soit en vue des côtes et sans que vous ayez besoin d'équiper un seul vaisseau. »
« Tu es donc un petit sorcier ? » dit le prince en riant.
« Non, sire, Je suis un bon chrétien, mais fiez-vous à moi. Dans 24 heures, vous n'aurez plus d'ennemis.
Eh bien, j'attendrai 24 heures avant de donner mes ordres et de faire mes préparatifs de guerre. Le lendemain, de bon matin, Pierrot guettait de loin Monsieur Levent par sa fenêtre. Il le vit accourir à tire-d'aile.
Ne perdez pas de temps à vous reposer, lui dit-il. Allez au-devant des Danois et des Saxons. Soufflez de toutes vos forces sur leurs navires. Dispersez-les de tous côtés sur la mer. Empêchez qu'ils n'abordent en Angleterre. Mais noyez le moins de monde que vous pourrez.
Voilà au moins une commission agréable, dit Monsieur Levent. Je vais m'en acquitter comme il faut.
Là-dessus, il partit comme une flèche. Il enfla ses joues, souleva des vagues hautes comme des montagnes, et en moins d'une heure, il dispersa et anéantit la flotte des Danois et des Saxons. Un courrier en apporta la nouvelle à la cour le soir même. Le roi en fut si joyeux qu'il embrassa Pierrot, et il allait sans doute lui donner une magnifique récompense, lorsqu'un autre courrier, tout couvert de poussière, entra dans le cabinet du prince. Cet homme annonça que la province de Cornouailles s'était révoltée et qu'une armée innombrable s'avançait pour surprendre la ville de Londres. Le roi fit résonner ses trompettes. Tous les seigneurs prirent leurs armes et montèrent à cheval. On sortit de la ville et on se rangea en bataille dans une plaine en face des ennemis. Les habitants du pays de Cornouailles étaient des gens féroces qui poussaient des cris sauvages et voulaient tout égorger.
Le grand Guillaume, quoique intrépide, avait de l'inquiétude. Au moment de livrer bataille, il aperçut auprès de lui un cavalier vêtu d'une armure noire et dont la visière était baissée.
« Qui êtes-vous » dit-il à ce cavalier. « Et pourquoi vous tenez-vous si près de moi ?»«
Je suis un serviteur de votre majesté, » répondit le cavalier noir. « Je veille sur votre personne et je viens vous assurer la victoire. »«
Et qui sont ces personnages bizarres que je vois derrière vous ? Quelle est cette grande figure enveloppée d'un manteau flottant ? Et cette femme qui pleure avec une écharpe couleur de l'arc-en-ciel ? »
Là, et mon écuyer, et l'autre ma servante. C'est à eux que nous devrons tout à l'heure notre salut. » Le roi donna le signal du combat. Les ennemis s'avancèrent en poussant des hurlements épouvantables. Alors le cavalier noir se tourna vers les deux figures qui le suivaient et leur cria « Faites votre devoir !»
À l'instant, on vit ces deux étranges personnes s'élever dans les airs à une hauteur prodigieuse. Un vent terrible souffla dans le visage des ennemis et une pluie battante les mouilla jusqu'aux os, sans que l'armée des Normands en fût incommodée. Le désordre se mit dans les rangs des révoltés. Au premier choc, ils furent enfoncés et battus. Au milieu de la mêlée, le roi remarqua le cavalier noir qui frappait sur les ennemis à grands coups d'épée et se comportait en homme de courage. On tua 10 000 des séditieux et le reste prit la fuite. Le roi fit appeler le cavalier noir et lui dit en présence de toute sa cour. « Jeune inconnu, c'est à vous que je dois le succès de cette journée. Veuillez maintenant vous découvrir à moi. Et quelle que soit la faveur que vous puissiez me demander pour un si grand service, je vous l'accorde d'avance. »
Alors le cavalier noir leva la visière de son casque et l'on reconnut Pierrot. « Sire, dit-il, « je suis votre messager, Pierrot. Puisque vous êtes assez bon pour vouloir récompenser mes faibles services, donnez-moi des lettres de noblesse et faites-moi chevalier. »
Le roi donna l'accolade à Pierrot et le cria chevalier. En rentrant au château, il écrivit des lettres de noblesse et Pierrot s'appela le chevalier de la pierre.
« À présent, sire, dit-il au roi, si votre majesté veut faire de moi le plus heureux des hommes, elle n'a qu'à demander à monsieur le baron, dont je ne suis plus le vassal, de me donner en mariage sa fille Marguerite. Je suis assez riche pour prétendre à une si belle alliance. »
Guillaume le Conquérant demanda Marguerite à monsieur le baron et donna encore 100 000 livres à Pierrot pour ses frais de noces. Le chevalier prit congé du roi et retourna dans son pays avec des écuyers et une suite digne de sa nouvelle fortune. La baronne lui accorda la main de Marguerite et on célébra splendidement le mariage au château. Le chevalier de la pierre se retira ensuite dans un domaine acheté par Jean-Pierre avec l'argent envoyé de Londres. Monsieur le Vent et Madame la Pluie voulurent faire leur présent de noces aux deux jeunes époux. Le chevalier reçut des mains de Monsieur le Vent un anneau constellé, par la vertu duquel Pierrot trouvait encore sa femme aussi belle au bout de 20 ans que le jour de son mariage. Et Madame la Pluie mit au cou de Marguerite un collier enchanté qui lui fit voir son mari, toujours jeune et aimable.
Après des cadeaux si précieux, on aurait eu mauvaise grâce à retenir prisonniers le Vent et Madame la Pluie. On leur ouvrit les portes de la ferme et le couvercle de la citerne, et ils retournèrent, l'un sur la montagne du Midi et l'autre dans la grotte de l'Ouest. Cependant, ils avaient si bien pris l'habitude de passer et de repasser la Manche qu'ils ont encore à présent un goût particulier pour l'Angleterre, quoique le roi Guillaume n'ait plus besoin de leur service. De là vient qu'à Londres, on porte des paletots de caoutchouc et qu'un Anglais ne voyage pas sans prendre avec lui son parapluie.
Les mariés vécurent heureux, ils s'aimèrent beaucoup et ne se querellèrent qu'une seule fois, parce qu'ils avaient oublié, ce jour-là, de porter l'anneau magique et le collier enchanté. Tous les autres jours, Marguerite fut de bonne humeur et le chevalier resta amoureux de sa femme. Ils eurent une quantité d'enfants et c'est de là que sort la grande et noble famille des Pierrot de la Pierre, si fameuse en Basse-Bretagne.
Alors, Bénédicte, ainsi s'achève la lecture de ce merveilleux conte de Paul de Musset, que j'ai eu beaucoup de bonheur à découvrir grâce à toi, ainsi que les monotypes, donc la technique d'illustration que tu as utilisée pour ce conte. Et pour terminer cette merveilleuse aventure, je te laisse le mot de la fin.
Eh bien, je te remercie. Christina, tout d'abord, un grand merci à toi, parce que, comme tu dis, c'est vraiment une aventure à la fois riche et extrêmement agréable que nous avons vécue, en collaboration d'ailleurs avec d'autres personnes, puisque ta fille également a pris part à notre enregistrement.
Ainsi que ton mari.
Ce qui m'a fait beaucoup plaisir. Oui, et donc... je pense qu'effectivement, ce conte qui n'a plus été édité malheureusement pendant une quinzaine d'années mérite amplement d'être redécouvert. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu bon pendant toutes les années où j'ai cherché un éditeur pour pouvoir le faire revivre. Et j'ai essayé d'apporter une modeste pierre à l'édifice, donc puisqu'il s'agit d'une auto-édition et que c'est un petit tirage. Mais je pense que même si quelques personnes peuvent découvrir par ce biais le conte, déjà je trouve que c'est quelque chose de magnifique et j'espère que, peut-être il y aura une suite aussi avec d'autres éditions par la suite, c'est ce qui me ferait extrêmement plaisir. Donc merci à toi, merci à Sophie pour le montage donc des textes, des bruitages qui a été un travail extrêmement important et efficace et franchement j'ai été extrêmement heureuse de faire d'avoir cette expérience avec toi, de conte à haute voix, qui permet d'exprimer aussi d'autres choses que ce qu'on peut ressentir quand on lit le conte sans le dire. Voilà.
À haute voix, ça prend une autre dimension. Exactement. En plus, c'est un conte très 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 drôle, hein, oui. Même si il peut être assez noir par moment, et il laisse apercevoir d'autres choses beaucoup moins drôles. Mais c'est vraiment un réel bonheur de pouvoir faire une lecture à haute voix de ce conte. On s'est beaucoup amusé sur la pièce de théâtre avec ton mari et ma fille. À chercher des bruitages, c'est plutôt toi qui as cherché, mais c'était très très rigolo. Enfin, on s'est vraiment beaucoup amusé et en plus, si effectivement ça peut permettre de le faire revivre autant que faire se peut et... On espère vraiment pouvoir porter cette petite bulle. Voilà,
exactement. Et on espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu nous à le compter. Et voilà. Et donc pour ajouter juste une petite précision, il est encore possible de se procurer le livre donc, que j'ai fait éditer en auto-édition, qui est donc édité aux éditions du Puy de Roule. Et vous aurez, si vous le souhaitez, les coordonnées donc, de mon site internet pour éventuellement vous procurer le livre si vous êtes intéressé, donc sur la page web du Centre Mandela.
Alors, sur le Centre Mandela, vous pouvez également, si vous souhaitez le découvrir en forme papier, bien entendu, et découvrir toutes ces fabuleuses illustrations donc de monotypes, oui, hein, faites par Bénédicte, vous le trouverez à la ludothèque
également,
du Centre Mandela.
Vrai. Tout à fait. Donc vous pourrez déjà peut-être éventuellement aller voir ce qu'il en est en vous rendant au Centre Mandela, où il existe effectivement un exemplaire du livre.
Et ça peut être une idée cadeau. Je pense que c'est bien, moi, ça, les idées cadeaux comme ça.
Eh bien, merci beaucoup, encore une fois. Donc, et voilà, ben, on vous remercie beaucoup de votre écoute. Et on vous dit ben, peut-être à bientôt.
On vous souhaite une belle aventure dans les bras de Monsieur Levent et de Madame La Pluie, qui nous ont bien, bien...
Nous ont accompagnés pendant un bon moment.
Oui, et jusqu'au dernier bruitage, parce que je suis sortie... Le mardi du montage des bruitages, j'ai entendu Monsieur Levent et c'était tout
à fait. Et ça t'a accompagné aussi à l'extérieur du Centre Mandela et jusqu'à chez toi.
Donc, bon vent à tous.
Bon vent, c'est le cas de le dire. Au revoir.
Au revoir.